Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ah, elle m'a surpris, là. OK. Alors, mon nom est Sylvain Plouffe. Vous avez entendu parler de moi un matin? Et je suis un des pasteurs ici, à l'Assemblée Le Sentier. Un des serviteurs, je dirais, du Seigneur Jésus-Christ. Pour la gloire de Dieu, le Père et de son Fils Jésus. Bienvenue à chacun et chacune en ce jour de réjouissance. Jour où nous célébrons la nouvelle naissance de 4 jeunes filles. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Ces 4 jeunes filles-là, ils ont pris la décision d'obéir à Dieu en se faisant baptiser, afin de témoigner publiquement de l'œuvre de l'Esprit en elles. 4 jeunes filles qui ont grandi parmi nous, dans notre groupe en mission. Mamie Lynn, je l'appelle comme ça, c'est mon épouse, a partagé que sa petite-fille Zoé était pour se faire baptiser avec 3 autres jeunes filles de son âge. Il y avait un autre grand-maman dans le groupe qui savait que Zoé était amie avec sa petite-fille qui a éclaté en sanglots. Voyez-vous, les grands-parents, ça sert à prier pour leurs petits-enfants. Et ça sert à crier à Dieu, à soupirer après Dieu. Nous autres, on a 7 petits-enfants, c'est la première qui se fait baptiser ce matin. Et je sais que Dieu n'a pas fini son œuvre parce que son bras n'est pas trop court pour sauver. Et je vous dis ça en même temps parce que je veux être un encouragement pour vous qui avez des enfants, des petits-enfants qui marchent loin de Dieu. Lâchez pas. Lâchez pas. Persévérez dans la prière. Dieu entend vos prières. Voyez-vous, le baptême de ce matin est une réponse à la prière de certaines grands-mamans, de certains grands-papas de l'Assemblée, et même de d'autres assemblées qui sont ici, ou d'autres qui n'ont pas pu se présenter ce matin, mais quand même, ils ont appuyé cette requête dans la prière. Ils sont contents de voir leurs enfants. Puis, je sais que les anges se réjouissent ce matin, parce que c'est écrit dans Luc, chapitre 15, verset 7. « Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent et que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Alors, réjouissons-nous avec les anges du ciel qui observent ces jeunes filles déclarées publiquement. « Je désire obéir à Jésus. Je suis une enfant de Dieu. » Quel beau travail de l'œuvre du Saint-Esprit qui a conduit chacune d'elles à se repentir et à se consacrer à la gloire de Dieu pour leur vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, que ton esprit nous conduise dans cette célébration. Que ton œuvre s'opère dans les cœurs et rende ta parole éclatante de beauté. C'est par ta grâce que ces jeunes filles s'avancent devant nous pour confesser ton nom. Donne-nous un bon temps dans ta parole de vérité ce matin. Pour ta gloire à toi. Oui, à toi seul, Seigneur Jésus. Amen. Alors, tournons ensemble vers le passage que je veux regarder avec vous ce matin. Et ce passage-là, c'est dans la série « Validée » qu'on a faite avec les pasteurs depuis quelques semaines. Et il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Vous allez voir, le passage se prête merveilleusement bien avec la célébration qu'on va avoir ce matin. Il s'agit de 1 Jean, chapitre 5, et on va lire les versets 1 à 13. Et je vais lire dans la version Louis II, 21. Alors, s'il y en a qui ont leur Bible avec eux, qui veulent tourner, 1 Jean, chapitre 5, on va lire les versets 1 à 13. « Quoique Jésus est le Christ, il est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage. L'Esprit, l'eau, le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand. Car c'est le témoignage de Dieu, celui qui l'a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie, elle est dans son Fils. Or, voici ce témoignage. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. Amen. Cette lettre fut écrite par l'apôtre Jean. Et on sait que Jean, par l'écriture de l'Évangile de Jean, était le disciple aimé de Dieu, le disciple aimé de Jésus. Et il se présente ainsi dans l'Évangile de Jean. Il va dire le disciple que Jésus aimait. Tout le temps, il parlait de lui. Pourquoi? Parce qu'il se savait aimé de Jésus. Il était convaincu dans son corps, dans son cœur, dans sa pensée que Jésus l'aimait profondément. Êtes-vous convaincu dans votre cœur aujourd'hui que Jésus vous aime de la même manière? Arrêtez-vous et réfléchissez à ça. Quel beau passage pour la célébration de ce matin. Il y a beaucoup à dire sur ce passage, chargé à bloc de vérités bibliques, plus magnifiques les unes que les autres. Mais ce matin, comme il s'agit d'une célébration de témoignage, j'aimerais que nous nous attardions sur les versets 7 et 8. Ils sont trois à rendre témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Le témoignage est quelque chose d'important dans la parole de Dieu. D'ailleurs, la loi de Dieu dans Deutéronome 19:15 dit « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou trois témoins. » Ici, dans le texte, Jean nous parle de trois témoins. Où trouver de l'information au sujet de ces trois témoins? Qui sont ces trois témoins? Regardons ensemble ce que nous rapportent les Écritures au sujet de ces trois témoins. En effet, je n'ai pas trouvé de meilleur endroit que les Écritures pour apprendre à connaître ces trois témoins. D'abord, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est une des personnes de la Trinité, une des trois personnes. Il est de toute éternité avec le Père et le Fils. Dans les Écritures, nous le voyons dans le livre de Genèse, dès le premier chapitre, au verset 2, on y lit « La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Il possède les attributs de Dieu. Il est omniscient, omniprésent. Aujourd'hui, il habite dans le croyant. Il le conduit, le dirige, l'instruit, le corrige. Il travaille aussi dans le monde. C'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Et c'est pas moi qui l'invente. On peut le lire dans les Écritures, dans Jean. Si je peux tourner ma page, j'allais le savoir. Dans Jean 16, verset 8. L'Esprit est vivant et fait partie de la Trinité, comme on l'a déjà dit. Il se manifeste à plusieurs endroits dans les Écritures. Et j'ai pu relever certains passages des Écritures qui nous parlent de l'œuvre de l'Esprit. Rappelez-vous le témoignage des gens qui ont assisté au baptême de Jésus. Il est écrit dans Luc chapitre 3, verset 21. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. C'est Dieu qui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » De la même façon, nous lisons au sujet de l'Esprit dans le livre des Actes. Et nous nous rappelons certainement que au jour de la Pentecôte, tous les apôtres étaient réunis ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent. Séparées les unes des autres, elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Un troisième exemple, pris dans le même livre des Actes, dans Actes 10, où l'apôtre Pierre se rend chez Corneille. Et à cette époque, vous savez que les Juifs n'avaient pas de relation avec les non-Juifs, les circoncis avec les incirconcis. Mais Dieu intervient, appelle Pierre à se rendre chez Corneille. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole chez Corneille. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit? » Surtout reçu l'Esprit comme nous. Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours. Je manque de temps pour vous décrire l'œuvre magnifique et grandiose de l'Esprit de Dieu en action pour rendre témoignage à Dieu. Ce dernier verset fait d'une pierre deux coups. Puisqu'il rend témoignage à l'œuvre de l'Esprit et il rend témoignage de la puissance de l'eau du baptême. Bien, la puissance, je veux pas. Il rend témoignage à l'eau du baptême qui doit être accordée. L'eau rend aussi témoignage au plan de Dieu. L'eau à elle seule ne sauve pas. En fait, les quatre jeunes filles qui sont passées dans le baptistère ce matin, ils n'ont pas laissé leur péché dans l'eau, puis ils n'auront plus de péché. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'eau n'enlève pas le péché. Les quatre jeunes filles demeurent pécheresses. Et ce que signifie l'eau, c'est tout simplement que si les papas avaient décidé de maintenir leurs filles sous l'eau, et ça en serait suivi la mort. Donc, c'est pour représenter qu'elles sont mortes à leur ancienne vie. Elles sont mortes à leur désir de la chair. Et elles vont continuer de combattre contre ce désir de la chair là toute leur vie, comme chacun d'entre nous. Et elles sont ressuscitées avec Christ, avec dorénavant la puissance à laquelle elles peuvent faire appel, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Ceux qui vivent dans les pays désertiques, comme Israël, connaissent encore plus la valeur de l'eau. Quand ça fait quelques jours que tu marches dans le désert et que tu as soif, ça donne une valeur à l'eau qu'on n'a peut-être pas, nous, d'avoir à se rendre à l'évier pour tourner le robinet et remplir notre verre, n'est-ce pas? Alors, on sait que l'eau, c'est primordial pour la vie. Le monde végétal et animal dépend des sources d'eau, comme nous. Autant l'eau est nécessaire à la vie, autant Dieu se déclare comme une source d'eau vive. On peut lire dans Jérémie 2,13, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Dieu donne un exemple concret de la nécessité de croire en lui, de nous abandonner à lui. Puis il prend l'analogie de l'eau. Autant on a besoin d'eau pour vivre, autant on a besoin de Dieu. Et Jésus lui-même, dans le passage de Jean, chapitre 7, verset 37-39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Un autre passage où on peut faire une pierre deux coups. On a Jésus qui annonce que l'eau vive va couler de ceux qui croient en Jésus. Cette eau vive, c'est partager notre foi. Partager que Christ est la source d'eau vive. Partager comme Jésus l'a fait au puits avec la femme samaritaine. Quand il lui a dit, « Tu vas me donner de l'eau à boire, mais moi, je peux te donner une eau, tu n'as plus jamais soif. Hey, » ça a dû piquer sa curiosité pas à peu près. Pour être capable de dire, « Ils vont me donner une eau, puis j'aurai plus jamais soif. » Mais cette eau-là, c'est la présence de Dieu même dans nos vies. L'Esprit et l'Épouse disent, « Viens. » Que celui qui entend dise, « Viens. » Que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie, la prenne gratuitement. C'est écrit dans Apocalypse 22, 17. Le troisième témoin, c'est le sang. Le sang couvre le péché. C'est pourquoi il y a tant de sacrifices dans l'Ancien Testament. Lorsque les hommes venaient au temple, c'était pour offrir des sacrifices et faire des offrandes. Le livre de Lévitique et d'autres livres de l'Ancien Testament le prouvent. L'aspersion de sang accompagnait tout sacrifice à l'Éternel. Hébreux 9, 22 nous dit, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Cela me rappelle une histoire dans la Bible où le sang est d'une importance primordiale. Peut-être vous rappellerez-vous cette histoire. On peut la lire dans Exode, chapitre 12, où Dieu dit à l'Éternel, on se rappelle le contexte un peu. Exode, chapitre 12, c'est le peuple de Dieu est sous la domination des Égyptiens. Et Dieu entreprend par diverses plaies et pour convaincre Pharaon de laisser aller son peuple. Et on sait que le cœur de Pharaon s'endurcit et qu'il revient toujours sur sa parole. Il va leur dire, « OK, vous pouvez partir, puis il essaie de définir comment ça va se faire, puis là, Moïse lui dit, non, c'est pas comme ça que Dieu veut que tu fasses, puis si tu résistes, Dieu va t'envoyer d'autres plaies. Et ça finit par une plaie où le sang vient à être pris en compte, et c'est le sang qui rend témoignage à Dieu encore une fois. Donc, Dieu dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. On prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux de la porte ainsi que sur le linteau. Ensuite, on mangera cet agneau. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai un jugement contre les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le même phénomène se produit quand Dieu voit le sang de Christ qui a couvert nos péchés. Il passe par-dessus nous. En fait, en anglais, on dit pas « Pâques », on dit « Passover ». Puis « Passover », ça veut dire « passer par-dessus ». Le sang de Christ est notre refuge. Le sang de Christ couvre nos fautes, couvre nos péchés. En fait, nul ne pourrait subsister devant Dieu si ce n'était pas de l'œuvre rédemptrice, de l'œuvre de Christ à la croix. Dieu passe par-dessus nos fautes à cause de l'œuvre de son Fils. Il dit ensuite, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez pour une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans cette histoire de la Bible, ce sont des hommes qui offrent leur agneau pour l'immoler comme sacrifice à Dieu. Et il fallait que cet agneau soit sans défaut. Dans le cas de Jésus-Christ, c'est Dieu le Père lui-même qui offre l'agneau, l'agneau parfait pour le sacrifice. Cet agneau est si parfait qu'il accomplira ce que les autres sacrifices ne pouvaient qu'apaiser. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus put s'écrier, « Tetelestai! » Hey, je fais mon... C'est du grec, puis ça veut dire « tout est accompli ». Je trouvais que ça sonnerait bien ce matin, là. Mais je l'ai appris, là, je l'ai lu, « Tetelestai! » Il y a quelques semaines, nous célébrions la Pâque ensemble. Une des plus belles et plus vivantes célébrations de Pâques que j'ai jamais vécues. L'Esprit de Dieu a soulevé l'assemblée en louange et en contemplation, d'un seul cœur. Puis comme si Jésus n'avait pas eu assez, il l'a répété deux fois, parce qu'on a deux célébrations. Je vous rappelle ici les paroles d'un chant que la chorale a entonné. Une croix dressée, un corps sacrifié, sur la terre des hommes. Rude châtiment pour un innocent, condamné pour avoir trop aimé. Et le second couplet qui dit « Ni l'or, ni l'argent ne pourraient racheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché. Quelle est la valeur du sang qui a coulé pour nous racheter? Si toutes les richesses de la terre ne peuvent racheter qu'une seule goutte de ce sang précieux. Voyez-vous quand même, l'homme le plus riche du monde, M. Elon Musk, détient une richesse de 369,7 milliards. Selon le magazine Forbes, ne peut se permettre d'acheter une seule goutte de sang précieux qui nous rachète gratuitement. Le sang précieux de Christ qui a coulé pour nous est la plus grande richesse que la terre ait portée. J'invite les musiciens à s'avancer. Réjouissons-nous, frères et sœurs, du privilège que nous avons, que Dieu se révèle à nous par les témoins puissants qui déclarent le plan de Dieu dans toute sa plénitude, dans toute sa richesse, dans toute sa gloire, dans tout son amour, dans toute sa miséricorde, dans toute sa grâce, et j'en passe. Rendons gloire à Dieu pour les trois témoins qui rendent témoignage encore aujourd'hui du plan parfait de Dieu. Longtemps dans ma vie, j'ai cru que j'étais un bon gars qui pouvait, par ma conduite, mériter le ciel à la fin de mes jours. Mais, comme nous venons de le voir, rien ne peut racheter une goutte de sang, pas même une conduite exemplaire. Si tu entends cette vérité pour la première fois, ne quitte pas cette assemblée ce matin sans en avoir parlé à quelqu'un autour de toi. Il y a plein de gens ici qui sont prêts à te parler de l'amour que Jésus a eu pour eux. Plein de gens qui sont prêts à t'expliquer ce que les Écritures nous rapportent et le témoignage des trois personnages qu'on a vus ce matin qui rendent témoignage au plan de Dieu. En fait, cette personne te conduira dans les textes de la parole pour te démontrer que Jésus est mort à la croix pour toi. Son sacrifice a tout payé. Ce sacrifice te pousse à la repentance, c'est-à-dire te détourner de ton chemin personnel pour embrasser les voies de Dieu. Le sang précieux qui a coulé est aussi pour toi. Ne détourne pas le regard. Ne fais pas la sourde oreille. Dieu s'adresse à toi dans les Écritures. Il est écrit dans Jacques, chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse purifier nos cœurs, c'est le sang de Christ déversé à la croix pour nous. » Et comme le chant dont je vous ai parlé plus tôt, une croix d'essai, l'arrangement d'Amiel de la mort nous a conduit en terminant ce chant en chantant « Attaché à la croix pour moi. » Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je me réjouis avec les frères et sœurs de notre assemblée pour ta présence. Je prie pour que nous puissions, en tant que communauté chrétienne, nous aimer les uns les autres. Permets-nous de comprendre dans nos cœurs l'œuvre de chacun des témoins dans nos vies. Témoignage qui élève le nom de l'Éternel Dieu pour sa gloire. Amen. Bon dimanche à chacun.